Deuxième partie, le Haut-Gévaudan. Chapitre 4, un campement dans la nuit. Le jour suivant, mardi 24 septembre, il était 2 heures de l'après-midi quand j'eus fini d'écrire mon journal et de réparer mon havresac, car j'étais résolu dorénavant à porter mon sac et à renoncer au panier. Une demi-heure plus tard, je me mettais en route pour le Chélard-l'Évêque, village situé sur la limite de la forêt de Mercoire. Un homme, m'avait-on dit, pouvait faire la route en 1 heure et demie. Il ne me semblait pas trop ambitieux de supposer qu'un homme encombré d'un âne pourrait parcourir la même distance en 4 heures. Sur toute la longue montée qui vient après Langogne, il y eut des alternatives de pluie et de grêle. Le vent fraîchissait peu à peu, des nuages fuyaient vers le nord et m'escortaient sur ma route, les uns traînaient derrière eux comme des rideaux de pluie, les autres, par leur amoncellement lumineux, semblaient annoncer la neige. Je fus bientôt hors du bassin cultivé de l'Allier, loin des bœufs qui tiraient la charrue et des autres tableaux du travail des champs. Des landes, des marécages couverts de bruyères, des étendues de rochers et de sapins, des bois de bouleaux tout étincelants de teintes d'or de l'automne, çà et là quelques misérables chaumières et des champs désolés. Tel est le caractère du pays. Montagnes et vallées se succédaient. Les petits sentiers verts et pierreux s'entremêlaient, se confondaient l'un avec l'autre, se divisaient parfois en 3 ou 4, se perdaient en des fonds marécageux puis reparaissaient par tronçons sur le versant d'une colline ou à la lisière d'un bois. Il n'y avait pas de route directe pour le Chélard, et ce n'était pas une petite affaire de traverser cette contrée vallonnée à travers ce fouillis de sentiers perdus. Il pouvait être environ 4 heures quand j'atteignis Sagnerousse, et je continuai ma route, heureux de me savoir encore dans le bon chemin. 2 heures plus tard, comme la nuit tombait rapidement et que le vent s'apaisait, je sortis d'un bois de sapin où j'avais longtemps erré, et je trouvai non le village attendu, mais un nouveau fond marécageux au milieu d'un chaos de montagnes. J'entendais déjà depuis quelque temps les clochettes d'un troupeau devant moi, et maintenant, en franchissant la lisière du bois, je voyais une douzaine de vaches et à peu près autant de silhouettes noires qui me semblaient être des enfants, bien que la brume en eût agrandi démesurément les proportions. Ils tournaient en rond silencieusement, tantôt se tenant par la main et faisant la chaîne, tantôt se séparant avec des révérences. Une danse d'enfant est toujours évocatrice de pensées aimables et fraîches, mais à la chute du jour sur des bruyères, c'était un spectacle étrange et fantastique. Et moi qui suis assez familier avec les œuvres de Herbert Spencer, je sentis au même instant une sorte de silence se faire dans mon esprit. Je piquai Modestine aussitôt, la poussant vers le large, désemparée comme un navire sans gouvernail. Dans un sentier, elle marchait droit devant elle de son plein gré comme poussée par un bon vent, mais dès qu'elle se trouvait sur l'herbe ou la bruyère, la coquine perdait l'esprit. Les voyageurs perdus tournent en cercle, dit-on. Cette tendance était poussée chez elle jusqu'à la passion, et il ne fallut pas moins de toute ma science de timonier pour la diriger à travers champs à peu près en ligne droite. Tandis que je louvoyais ainsi désespérément en plein marécage, les enfants et le bétail s'étaient dispersés, et il ne restait plus en arrière que 2 fillettes à qui je demandais mon chemin. Les paysans sont en général peu disposés à renseigner le voyageur. Un vieux diable se retira tout simplement dans sa maison et barricada sa porte à mon approche. J'eus beau frapper et m'égosiller, il fit la sourde oreille. Un autre, m'ayant indiqué une direction que j'avais mal comprise, ainsi que je le vis plus tard, me laissa tranquillement m'engager dans une mauvaise route, sans même faire un signe. Je pouvais errer toute la nuit dans la montagne, il s'en souciait comme d'une guigne. Quant à ces deux fillettes, c'était une paire de petites effrontées qui ne songeaient qu'à mal. L'une me tira la langue, et l'autre me dit de suivre les vaches, et elle ricanait en se poussant du coude. La bête du Gévaudan a mangé une centaine d'enfants dans cette région. Elle commençait à me devenir sympathique. Laissant là les fillettes, j'avançai rapidement à travers le marais et gagnai un autre bois où je trouvai une route bien tracée. Il faisait de plus en plus noir. Modestine, commençant à flairer quelques malheurs, pressa le pas de son propre mouvement. Et à partir de ce moment-là, elle ne me donna plus aucun ennui. Ce fut le premier signe d'intelligence que j'eus l'occasion de remarquer en elle. En même temps, le vent se mit à souffler en tempête, et une trombe d'eau s'abattit sur nous venant du nord. De l'autre côté du bois, j'aperçus quelques fenêtres éclairées dans l'ombre. C'était le hameau de Fouzilic, trois maisons sur la pente d'une montagne, près d'un bois de bouleaux. J'y rencontrai un charmant vieillard qui fit un bout de chemin avec moi sous la pluie pour être bien sûr de me mettre dans la direction du Chélard. Il ne voulait pas entendre parler de récompense. Il agitait sa main au-dessus de sa tête d'un geste quasi menaçant, répétant avec force son refus dans un patois de tous les diables. Tout semblait enfin pour le mieux. Je me voyais en imagination dîner au coin d'un bon feu et je sentais mon cœur se fondre de joie à cette idée. Hélas, j'allais vers de nouvelles et plus grandes misères. La nuit tomba brusquement. Je me suis trouvé dehors par bien des nuits noires, jamais par une nuit pareille. La vague lueur des rochers et du sentier lorsqu'il était bien marqué, une sorte d'épaisseur floconneuse, comme de la nuit dans la nuit, pour un arbre, c'était tout ce que je pouvais distinguer. Le ciel n'était qu'une masse obscure, au-dessus de ma tête, et les nuages fuyants poursuivaient leur route invisible aux yeux des humains. Ma main, au bout de mon bras tendu, se confondait avec le sentier, mon aiguillon avec les prairies et le ciel. Bientôt le chemin que je suivais se ramifia selon la mode du pays, en trois ou quatre, dans une étendue de prés rocailleux. Puisque Modestine avait montré tant de goût pour les sentiers battus, j'essayais de me fier à son instinct en cette situation critique. Mais qu'attendre de l'instinct d'un âne? En moins d'une minute, elle errait de ci, de là, au milieu des rochers, aussi perdue qu'il était possible de l'être. J'aurais campé depuis longtemps si j'avais été pourvu du nécessaire, mais comme cette étape devait être courte, je n'avais emporté pour moi ni vin ni pain et guère plus d'une livre de pain pour ma jeune amie. Ajoutez à cela que Modestine et moi étions tous deux trempés par les ondées. Malgré tout, si j'avais trouvé un peu d'eau, j'aurais campé là tout de suite. Mais l'eau manquait absolument, excepté sous forme de pluie, et je me décidai à retourner à Fouzilic et à demander un guide pour me conduire un peu plus loin sur ma route. Pour me guider plus loin, comme il est dit dans les psaumes, prête-moi ta main secourable. C'était facile à décider, mais difficile à mettre à exécution. Au milieu de ces ténèbres hostiles et comme vivantes, je n'étais sûr de rien, si ce n'est de la direction du vent. Je me tournais de ce côté. La route avait disparu et je marchais à travers champs, arrêté à chaque instant par des marécages ou des murs que Modestine ne pouvait escalader pour arriver une fois de plus en vue de fenêtres éclairées. Cette fois, leur disposition n'était plus la même. Ce n'était pas Fouzilic, mais Fouzilhac. Les deux hameaux étaient à très petite distance l'un de l'autre, mais un monde les séparait, si j'en juge par le caractère des habitants. J'attachai Modestine à une barrière et j'avançai à tâtons, trébuchant parmi les rochers, m'enfonçant jusqu'à mi-jambe dans le marais, jusqu'à ce que j'eusse atteint l'entrée du village. Dans la première maison éclairée se trouvait une femme qui ne voulut pas m'ouvrir. « Elle ne pouvait rien faire, me cria-t-elle à travers la porte, elle était seule et infirme. » Mais si je m'adressais à la maison voisine, j'y trouverais un homme qui pourrait me venir en aide s'il avait du cœur. On vint en force à la porte suivante. Un homme, deux femmes et une fillette, avec deux lanternes pour examiner le voyageur. L'homme n'avait pas mauvaise apparence, mais il avait un sourire équivoque. Il m'écouta expliquer mon cas, appuyé sur le montant de la porte. Tout ce que je demandais, c'était un guide pour aller au Chélard. Hein, c'est que, voyez-vous, il fait noir, dit-il. Je lui dis que c'était justement pour cette raison que je demandais de l'aide. Je comprends bien, dit-il d'un air gêné, mais c'est de la peine. Je paierai, lui dis-je. Il secoua la tête. J'allais jusqu'à 10 francs, mais il continua de secouer la tête. Faites votre prix, lui dis-je. Ce n'est pas ça, dit-il enfin avec un effort visible, mais je ne sortirai pas. Je commençais à m'échauffer et lui demandais ce qu'il me conseillait de faire. « Où allez-vous après le Chélard ? » poursuivit-il, en guise de réponse. « Cela ne vous regarde pas, lui dis-je, peu disposé à satisfaire sa stupide curiosité. Ça ne change rien à ma situation. »« C'est vrai, cela, reconnut-il avec un rire niais. Oui, c'est vrai. Et d'où venez-vous ? » « Oh, lui dis-je, je ne répondrai à aucune de vos questions. Ainsi, vous pouvez vous épargner la peine de les poser. » J'ai déjà assez perdu de temps comme ça, j'ai besoin d'aide. Si vous ne voulez pas me guider vous-même, indiquez-moi au moins quelqu'un qui consente à le faire. Attendez, cria-t-il tout à coup, n'est-ce pas vous qui êtes passé dans la prairie quand il faisait encore jour? Oui, oui, dit la petite fille, que je n'avais pas reconnue. C'était ce monsieur, je lui ai dit de suivre les vaches. Quant à vous, mademoiselle, dis-je, vous êtes une farceuse. Ah ça, ajouta l'homme. « Que diable avez-vous fait pour être toujours ici ?»« Que diable avais-je fait, en vérité ? Il est certain que j'étais encore là. »« N'importe, dis-je, finissons-en. » Et de nouveau, je lui demandais de m'aider à trouver un guide. « Ah, c'est que, dit-il encore, c'est que, il fait noir. »« Eh bien, dis-je, prenez une de vos lanternes. »« Non, 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 s'écria-t-il, ayant toujours son idée de derrière la tête et revenant à l'une de ses phrases précédentes. « Je ne passerai pas la porte. » Je le regardai. Je vis à son expression qu'il se débattait entre une terreur non simulée et une honte vraiment sincère. Il souriait piteusement et passait sa langue sur ses lèvres comme un écolier pris en faute. Je lui dépeignis en quelques mots ma situation et lui demandai ce que je devais faire. « Je ne sais pas, dit-il, mais je ne passerai pas la porte. » Il n'y avait pas d'erreur. La bête du Gévaudan y était bien pour quelque chose. « Monsieur, lui dis-je, de mon ton le plus imposant, vous êtes un pleutre. » Sur ce, je tournai le dos à toute la famille qui se hâta de se retirer derrière les fortifications. Et la fameuse porte se referma, non sans que j'aie entendu un éclat de rire. « Filia Barbara, pater Barbarior. » Traduisons par le pluriel, « de vraies bêtes du Gévaudan. » Les lanternes m'avaient quelque peu ébloui, et j'errais désespérément parmi les pierres et les décombres. Toutes les autres maisons du village étaient silencieuses et obscures. J'eus beau frapper, au hasard, à quelques portes, je n'eus aucune réponse, et finalement je renonçai, accablant Fouzillac de malédictions. La pluie avait cessé, et le vent, qui continuait à s'élever, commençait à sécher mon paletot et mes culottes. Tant pis, pensais-je, avec ou sans eau, je camperais tout de même. La première chose à faire était de revenir jusqu'à Modestine. Je mis bien 20 minutes à retrouver cette jeune personne dans l'obscurité. N'eût été ce maudit marécage dans lequel je m'embourbais une fois de plus, j'aurais pu la chercher jusqu'au petit jour. Il importait maintenant de gagner l'abri d'un bois, car le vent était aussi froid que violent. Comment, dans cette région boisée, je fus si longtemps à en trouver un, c'est encore un des insolubles mystères de cette nuit d'aventure. Mais je puis donner ma parole que je mis près de 1 heure à le découvrir. À la fin, des arbres sombres commencèrent à se dresser sur ma gauche, et leur ombre, traversant brusquement la route, formait juste devant moi une sorte de caverne du plus beau noir. Je dis caverne sans aucune exagération, car en s'introduisant sous cette arche de feuilles, on avait l'impression d'entrer dans un cachot. Je promenais ma main à l'aveuglette, jusqu'à ce qu'elle rencontrât une branche solide. J'y attachai Modestine, qui n'était plus qu'une pauvre bête hagarde, ruisselante, désemparée. Je déchargeai mon paquet, le plaçai sur le talus qui se trouvait au bord de la route, et débouclai les courroies. Je savais bien où se trouvait la lanterne. Mais les bougies, où étaient-elles? Je cherchai à tâtons dans ce pêle-mêle, et ainsi tâtonnant, je rencontrai la lampe à alcool. Sauvé ! Voilà qui faisait aussi bien mon affaire. Le vent rugissait sans trêve parmi les arbres. Je pouvais entendre gémir les branches et les feuilles s'agiter jusque dans les profondeurs de la forêt. Mais le lieu de mon campement n'était pas seulement noir comme un four, il était aussi admirablement abrité. La mèche s'alluma dès la seconde allumette. Sa lueur était livide et vacillante, mais elle me séparait du reste de l'univers et semblait accroître l'épaisseur de la nuit dont j'étais enveloppé. J'attachai Modestine de manière à lui laisser le plus de liberté possible et lui donnai la moitié du pain noir pour son souper, réservant l'autre moitié pour le lendemain matin. Puis je rassemblai autour de moi tout ce dont je pouvais avoir besoin. J'ôtai mes bottines mouillées et mes jambières, que j'enveloppai dans mon imperméable. Je disposai mon havresac en traversin sous le pan de mon sac de couchage, je fourrai mes jambes dans l'intérieur et m'y emmaillotai comme un bambino. J'ouvris alors une boîte de saucisses de Bologne et cassai une tablette de chocolat. C'était tout ce que j'avais à manger. S'offusque qui voudra, je dévorai les deux choses ensemble comme si cela avait été du pain et de la viande. Je n'avais pour arroser cet affreux mélange que de l'eau-de-vie pure, un affreux breuvage aussi. Mais la faim m'empêchait d'être difficile. Je mangeais de bon appétit et fumais une des meilleures cigarettes de ma vie. Je plaçai une pierre sur mon chapeau de paille, rabattis le pan de ma casquette fourrée sur mon cou et sur mes yeux, mis mon revolver à portée de ma main et me blottis sous ma peau de mouton. Je me demandais d'abord si j'avais sommeil, car je sentais mon cœur battre plus vite qu'à l'ordinaire, comme possédé par une sensation intense à laquelle ma pensée restait étrangère. Mais aussitôt que mes paupières se refermèrent, je ne sais quel glu s'insinua entre elles, plus moyen de les séparer. Le vent dans les arbres me chantait sa berceuse. Parfois il sifflait pendant des minutes entières avec le même bruissement ininterrompu, qui ne s'élevait ni ne s'abaissait. Puis de nouveau il s'enflait, se brisait comme une vague qui déferle, et les arbres, encore chargés de la pluie de l'après-midi, secouaient sur moi de grosses gouttes. Bien des nuits dans ma chambre, à la campagne, j'ai prêté l'oreille au concert troublant du vent dans les arbres. Était-ce parce que je me trouvais dehors, étendu sur le sol au milieu des bois, ou parce que les arbres n'étaient pas les mêmes? Toujours est-il que le vent a une chanson différente dans les forêts du Gévaudan. Je ne cessais d'écouter, tout en sentant le sommeil s'emparer doucement de moi et engourdir ma pensée et mes sens. Mais tant que j'eus un reste de conscience, je m'étonnais de l'étrange clameur qui retentissait à mes oreilles, et mon dernier effort, avant de succomber au sommeil, fut pour écouter encore. Deux fois au cours de la nuit, une fois parce qu'une pierre m'avait blessé à travers le sac, une autre fois parce que la pauvre Modestine, finissant par se fâcher malgré sa patience, piaffait et grattait le sol du sabot, deux fois, dis-je, je repris mes esprits pendant un court instant et vis une étoile ou deux au-dessus de ma tête et les dentelures du feuillage se découpant sur le ciel. Quand je me réveillai pour la troisième fois, mercredi 25 septembre, tout était baigné d'une lumière bleuâtre, annonciatrice de l'aurore. J'aperçus les feuilles qui s'agitaient au vent, je devinai le ruban clair de la route et, en tournant la tête, je vis Modestine attachée à un hêtre dans une attitude de résignation ineffable. Je fermai les yeux de nouveau et me mis à récapituler mes expériences de la nuit. Je fus surpris de constater combien tout avait été facile et agréable, même au milieu de cette tempête. La pierre qui m'avait gêné ne se serait pas trouvé dans mon sac si je n'avais été obligé de camper à l'aveuglette par cette nuit opaque. Je n'avais éprouvé, en somme, d'autres désagréments que celui de toucher des pieds la lanterne ou le second volume des « Pasteurs du désert » de Perra parmi les objets de toutes sortes que contenait mon sac de couchage. En tout cas, je n'avais pas ressenti la moindre impression de froid et je me réveillais avec une légèreté, une clarté d'esprit inaccoutumée. Sur ce, je me secouai, remis mes bottes et mes jambières, et rompant le reste du pain pour Modestine, je me mis en devoir de reconnaître dans quelle partie du monde je venais de m'éveiller. Ulysse, échoué en Ithaque, l'esprit troublé par la déesse, n'était pas plus plaisamment égaré que moi. J'avais toute ma vie souhaité une telle aventure, une de ces aventures où la passion ne joue aucun rôle, comme il en arrivait aux héros voyageurs d'autrefois, et me trouver ainsi le matin, jeté comme une épave au milieu des bois dans un coin perdu du Gévaudan, incapable de distinguer le nord du sud, aussi étranger à tout ce qui m'entourait que le premier homme lors de sa création sur la terre, c'était déjà une partie de mon rêve réalisé. J'étais à la lisière d'un petit bois de bouleau parsemé de quelques hêtres. Par derrière, il touchait à un bois de sapin, et en avant, les arbres se faisaient plus clairsemés le long d'une petite vallée herbeuse. Tout autour se dressaient des cimes dégarnies, proches ou lointaines, suivant que l'horizon se fermait ou s'ouvrait, mais aucune ne semblait plus haute que les autres. Le vent secouait violemment les arbres, et les taches d'or de l'automne frissonnaient aux branches des bouleaux. Au-dessus de ma tête, dans le ciel, des nuées déchiquetées fuyaient, s'évanouissaient, reparaissaient. On eût dit, tant le vent les pourchassait dans l'espace, un tournoiement de marionnettes. Il faisait un temps rude, glacial, qui aiguisait l'appétit. Je mangeais du chocolat, avalais une gorgée d'eau-de-vie et roulais une cigarette avant que le froid m'eût engourdi les doigts. Pendant que je terminais mon repas, que je refermais mon paquet et que je le rattachais sur le bas, le jour montait furtivement au seuil de l'Orient. À peine avions-nous fait quelques pas sur le sentier que le soleil, invisible à mes yeux, avait déjà mis un reflet d'or sur les montagnes de nuages qui s'alignaient au ciel du côté de l'est. Nous avions vent arrière, et nous étions poussés assez vivement. Je boutonnais mon paletot et marchais allègrement, plein de bienveillance pour l'humanité tout entière, quand soudain, à un tournant, je me trouvais une fois de plus en face de Fouzilic. Bien mieux, voici que le vieil homme qui m'avait escorté très loin la nuit précédente s'élança hors de sa maison en m'apercevant, levant les bras au ciel. « Mon pauvre garçon, s'écria-t-il, qu'est-ce que ça veut dire ?» Je lui racontais tout ce qui m'était arrivé. Il frappa ses vieilles mains comme les claquets d'un moulin, en se reprochant la légèreté qu'il avait commise en me laissant partir. Mais quand je lui parlais de l'homme de Fouzilhac, l'indignation et la pitié le firent vibrer des pieds à la tête. « Cette fois au moins, dit-il, il n'y aura plus d'erreur. » Et il me conduisit en boitant, car il était très rhumatisant, l'espace d'un demi-mille, jusqu'à ce que je fusse en vue du Chélard, le pays que j'avais tant cherché.